Ce matin au Radio-Journal, attaque iranienne contre Israël, quelle sera la riposte?
L'escalade ne concerne pas seulement Israël, mais concerne toute la région.
Les appels au calme se multiplient partout dans le monde. Début d'un procès historique, Donald Trump face à la justice dans l'affaire Stormy Daniels et le titre ancestral de la nation Haïda reconnu en Colombie-Britannique. Bonjour à tous, bon début de semaine, ici Marie-Christine Bouillon. Israël promet des représailles contre l'Iran en réponse aux tirs de drones et de missiles effectués par Téhéran sur son territoire en fin de semaine. Cette attaque était elle-même une réplique à la frappe israélienne contre le consulat iranien en Syrie au début du mois. Réuni en ce moment, le cabinet de guerre du gouvernement de Benjamin Netanyahou examine ses options de riposte. Jean-Philippe Robillard a les détails.
La réunion est maintenant commencée. Les membres du cabinet de guerre vont discuter à nouveau d'une éventuelle riposte à l'attaque de l'Iran, parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune décision qui aurait été prise. Ce qui fait consensus au sein du cabinet de guerre, c'est qu'Israël doit agir, doit riposter. Mais ce qu'il divise, c'est la façon dont se fera la riposte, le moment que choisira Israël pour répliquer. Les États-Unis ont déjà averti Israël qu'il ne soutiendrait pas, qu'il ne participerait pas à une opération militaire de représailles. Sur le plan diplomatique, il y a les dirigeants des pays du G7, dont le Canada, qui ont condamné unanimement les frappes iraniennes et qui ont appelé les parties à la retenue. Le président français Emmanuel Macron a d'ailleurs affirmé ce matin que la France allait tout faire pour éviter l'embrasement du Proche-Orient.
Nous avons condamné, nous sommes intervenus et aujourd'hui nous allons tout faire pour éviter l'embrasement, c'est-à-dire l'escalade. Et donc, essayer de convaincre Israël qu'il ne faut pas répondre en escaladant, mais plutôt isoler l'Iran, réussir à convaincre les pays de la région que l'Iran est un danger, accroître les sanctions.
Il y a également l'Allemagne et le Royaume-Uni qui ont réitéré l'appel à la retenue aujourd'hui pour éviter toute escalade de la situation au Proche-Orient. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Montréal.
Puis au pays, le gouvernement fédéral réaffirme son appui au droit d'Israël de se défendre. Valérie Gamache a recueilli des réactions à Ottawa.
Nous condamnons les attaques aériennes.
Justin Trudeau a rappelé que le Canada est solidaire d'Israël et a réaffirmé le droit de Tel Aviv à se défendre contre ces attaques. Parallèlement, Ottawa appuie la position américaine, c'est-à-dire que l'ambassadeur du Canada aux Nations Unies, Bob Rae, plaide pour la désescalade des tensions dans la région. À l'instar des alliés du G7, il en appelle à resserrer la coopération pour mettre fin à la crise à Gaza, une crise humanitaire qui ne peut pas être oubliée dans le contexte de ces attaques, dit-il.
Je crois que c'est nécessaire de considérer l'impact continuel sur la situation en Gaza.
Et il y a de la pression pour que le gouvernement Trudeau reprenne ses exportations d'armes vers Israël pour permettre au pays de se défendre. En janvier dernier, le gouvernement a décidé de ne plus approuver de nouvelles licences d'exportation d'armes, bien qu'il honore les licences déjà existantes. Puis l'ambassadeur israélien à Ottawa réitère sa demande pour que le gouvernement inscrive sur sa liste des organisations terroristes, les gardiens de la révolution islamique, et ce, sans plus tarder, Ido Moed, l'ambassadeur israélien à Ottawa. La communauté internationale doit se tenir debout face à l'Iran, dit-il, et ça commence par désigner les gardiens de la révolution islamique, organisation terroriste, dès aujourd'hui. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Ottawa.
Malgré toutes les tentatives de ses avocats pour le faire avorter ou pour le retarder, le premier des quatre procès criminels engagés contre l'ex-président républicain Donald Trump s'ouvre aujourd'hui à New York, en pleine campagne présidentielle. Le milliardaire est accusé d'avoir falsifié des documents financiers, notamment pour dissimuler des pots de vin versés à une présumée maîtresse, Stormy Daniels, pour ne pas nuire à sa candidature en 2016. Dans une ville nettement démocrate, la sélection du jury s'annonce complexe. Voici notre correspondant Frédéric Arnould.
Pour le début de ce procès, tant la défense que la poursuite tenteront de trouver des jurés qui leur sembleront impartiaux ou à tout le moins qui ne pourront pas nuire à leur cause lors des délibérations. Ainsi, lors de cette sélection, les avocats pourront exercer leur droit de refus s'ils estiment que tel ou tel candidat juré ne convient pas. Les jurés potentiels se feront poser pas moins de 42 questions lors de cette sélection. De quoi passer au peigne fin ce bassin de plusieurs centaines de candidats afin d'en retenir 12 plus 6 suppléants. Les jurés potentiels devront indiquer les médias en ligne, les émissions d'information et les médias sociaux qu'ils consultent et s'ils se sont déjà considérés comme des partisans ou des membres de groupes extrémistes et suprémacistes blancs dont le mouvement QAnon, les Proud Boys et Antifa. Cela ne sera forcément pas une mince affaire d'en trouver 18, car à New York, ville majoritairement démocrate, il est difficile de ne pas avoir d'avis sur l'ex-président qui se retrouvera dans le box des accusés. Le processus devrait prendre plusieurs jours et le procès de Donald Trump dans cette affaire de pot de vin versé à Stormy Daniels, ancienne actrice du porno, devrait durer entre 4 et 8 semaines. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, à New York.
Toujours aux États-Unis, des médias rapportent que le FBI aurait ouvert une enquête criminelle sur l'effondrement du pont Francis Scott Key à Baltimore. Le 26 mars, un porte-conteneur est entré en collision avec le pont après avoir manqué d'électricité, ce qui a causé la mort de 6 travailleurs routiers. Le Washington Post affirme que l'enquête porterait notamment sur l'équipage qui serait soupçonné d'avoir quitté le port de Baltimore, même s'il était au courant d'importants problèmes mécaniques à bord. Le gouvernement libéral de Justin Trudeau devrait annoncer dans son budget de demain que les Canadiens les plus riches seront mis à contribution. Radio-Canada a appris que la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a l'intention de taxer davantage les contribuables les plus fortunés et les grandes entreprises pour aller chercher de nouveaux revenus. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a signé hier un traité reconnaissant les droits de la nation Haïda sur l'archipel Haïda-Gwaï, situé au nord de l'île de Vancouver. L'entente, qui a été approuvée par 95% des membres de la communauté, a finalement été conclue sans l'intervention des tribunaux. Mélinda Trochu a préparé ce qui suit.
Une prière pour les familles endeuillées de la nation Haïda. C'est ainsi que la nation a débuté la cérémonie de signature d'un accord historique dimanche. La Colombie-Britannique et la nation Haïda ont signé une entente qui reconnaît le titre ancestral de la nation sur le territoire de Haïda-Gwaï, alors que des pourparlers duraient depuis un demi-siècle. Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a parlé d'une reconnaissance solennelle et importante qui s'est longtemps fait attendre.
It will be the first time in Canada. The title is recognized in this way.
David Eby a expliqué que la reconnaissance de ce titre ancestral sans passer devant les tribunaux est une première au Canada. Pour Gagwiz Jason Alsop, président du Conseil de la Nation Haïda, le chapitre noir de la relation avec la Colombie-Britannique n'est qu'une courte période face à l'histoire ancienne de son peuple.
It's an acknowledgement of past denials and harms and fully embracing the truth. That we all know that Haïda-Gwaï is Haïda-land.
Cependant, c'est une reconnaissance des préjudices passés, dit-il, et du fait que Haïda-Gwaï est une terre Haïda.
Always has been and always will be.
Et qu'elle le restera. David Eby espère que cet accord inspirera la reconnaissance d'autres titres ancestraux sans passer devant la justice pour des nations en Colombie-Britannique, mais aussi partout au Canada. Ici Mélinda Trochu, Radio-Canada, Victoria.
Et en terminant, il y a 5 ans, les flammes embrasaient la cathédrale Notre-Dame de Paris. Comme prévu, ce joyau de l'époque médiévale ouvrira de nouveau ses portes cette année, le 8 décembre. Entre-temps, les visiteurs ont tout de même accès au sous-sol de l'édifice. C'est là où les artisans de cette restauration sans précédent dévoilent certains de leurs secrets. Le reportage de notre correspondant Raphaël Beauvier-Auclair.
Les touristes défilent devant le chantier de Notre-Dame. À moins de 8 mois de la réouverture de la cathédrale, sa restauration suscite toujours la fascination. Et les plus curieux n'ont qu'à descendre un escalier pour en apprendre davantage.
On est sous le parvis de la cathédrale et dans un ancien parking.
Alban Gauvin, de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale, nous fait visiter ce musée consacré au métier du chantier. On y apprend, par exemple, davantage sur la restauration de la charpente, l'approvisionnement en pierre et en bois et le nettoyage de l'orgue.
C'est de faire connaître les métiers qui sont mobilisés et pourquoi pas de susciter des vocations auprès des plus jeunes.
Depuis l'incendie, en 2019, des ateliers sont organisés pour faire découvrir ces professions. C'est avec grand intérêt que ce touriste québécois a voulu y participer.
Et on a vu beaucoup de reportages sur les artisans qui remodelaient tout le bois, toutes les structures et toute la charpente.
L'évolution stylistique des vitraux suit celle un peu de la peinture.
Devant lui, la restauratrice de vitraux Emma Groux, qui a travaillé sur le chantier de Notre-Dame, parle de son métier.
Souvent, on est caché derrière des échafaudages. On voit le résultat qu'une fois qu'on est parti. Donc là, ça permet un peu de mettre en lumière notre travail.
Bien que tragique, l'incendie aura au moins permis, selon elle, de mettre de l'avant l'expertise des artisans français et de contribuer à son développement.
On n'a jamais l'occasion d'intervenir en si peu de temps sur un édifice entier.
Ici Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada, à Paris.
Voilà, c'était le Radio-Journal de Radio-Canada. De retour à votre émission matinale.